École normale supérieure, savoir en multimédia.
Je serai extrêmement brève. Je voulais remercier en votre nom à tous Pascal Quignard qui prononçait cette conférence en clôture du... Enfin, en clôture. Dans le cours de la réunion de l'Association française pour la peinture murale antique. Il va de soi que l'invitation qui vous a été faite et que vous avez si obligeamment acceptée était très largement inspirée par le fait que vous-même avez consacré une importante partie de votre œuvre à l'évocation de la littérature latine, de la civilisation romaine. En tout cas, celle-ci témoigne d'une familiarité très grande avec un corpus de textes et une culture qui sont très chères à cette école. Vous connaissez tous l'œuvre de Pascal Quignard, il serait tout à fait inutile de la présenter ici. Je voudrais simplement rappeler que une des caractéristiques extrêmement fortes de cette œuvre est le travail sur la forme, sur les différents genres dans lesquels la volonté créatrice s'est exprimée et d'une manière qui a d'une certaine façon, comme vous le dites dans un de vos textes, qui a fait tomber les genres. C'est une sorte d'appropriation qui les a d'une certaine manière énervés ou privés d'une partie de leur force de contrainte. Et cette réflexion sur les voies de l'expression est une des constantes qui est le plus remarquable de l'œuvre de Pascal Quignard, comme le rapport à la musique. Là, de nombreux engagements et inspirations de votre œuvre font de ce rapport à la musique une des lignes de force. Et au-delà de la musique, mais pas seulement la musique d'ailleurs, de très nombreux univers artistiques sont présents dans l'œuvre de Pascal Quignard. Alors, il y a quelques mois, en fait, c'était avant l'été, les responsables de l'Association française pour la peinture murale antique ont proposé d'accompagner en quelque sorte leur colloque avec vos mots ou votre et c'est la raison pour laquelle ils ont souhaité vous inviter pour une conférence. Je voudrais à cette occasion remercier les responsables de l'association et les organisateurs de ce colloque, les remercier d'avoir choisi l'École normale supérieure pour cette réunion qui est également l'occasion de célébrer le 30e anniversaire de l'association. Alors vous verrez, l'association se réunit dans des lieux qui sont en quelque sorte des lieux d'investigation, c'est-à-dire dans des lieux où des collections de fresques existent. C'est évidemment pas le cas de l'École normale supérieure. Nous n'avons pas de vestiges matériels à proposer à votre sagacité, mais nous avons en fait tout autre chose. C'est ce que nous pouvons représenter, ce que nous continuerons de représenter dans la défense, l'illustration des études antiques et tout particulièrement des études latines, puisque les latinistes sont nombreux dans cette école, qu'ils fassent de l'histoire, qu'ils étudient la littérature, qu'ils étudient la langue latine. Voyez-vous, l'Antiquité est pour nous, ici, resté un monde extrêmement vivant, que rien n'éloigne de nous, et un monde qui, pour beaucoup des personnes qui sont assises dans cette salle et qui vont vous écouter, sont un monde de très grande familiarité, une des figures de la terre natale. Et je suis sûre que les propos que vous allez tenir devant nous rendront encore plus vifs, enfin rencontreront en tout cas cet engagement de tous ici. Vous allez parler de la peinture moderne comme de la peinture romaine comme moment extrême, pardonnez-moi. J'insistais, je n'osais pas dire que cette culture romaine était extrêmement actuelle pour nous, parce que j'ai horreur de ce mot, mais voilà, j'ai fait encore beaucoup plus que cela. Donc cette peinture romaine qui est aussi un des objets d'études principaux de notre unité de recherche en archéologie des mondes anciens, C'est donc la littérature latine et la culture latine dans tous ses sens qui est présente dans cette école. Merci beaucoup pour les mots que vous avez prononcés.
Bien, je remercie pour sa générosité, Madame Cantos-Perbet, et je remercie très, très beaucoup Florence Monnier qui m'a invité, du laboratoire d'archéologie qui m'a invité au sein de cette association magnifique, donc française pour la peinture murale antique. Et c'est de ça, bien sûr, que je vais parler. Mais en commençant, je ne suis pas archéologue, mais je ne suis pas non plus latiniste, je ne suis pas non plus helléniste, je ne suis pas un historien de l'art, je ne suis pas un philosophe, je ne suis pas un psychanalyste. C'est pour vous mettre à l'aise que je dis tout ça. Qu'est-ce que je suis ? Je suis quelqu'un qui a beaucoup lu, qui aime beaucoup l'étude, qui a beaucoup lu. Autrefois, on aurait peut-être dit honnête homme, mais malheureusement, honnête et homme, c'est devenu, au siècle dernier, un peu instable. Donc je préfère le mot littéraire, celui qui reste à chercher éperdument dans le dictionnaire le sens des mots, qui ne les comprend jamais. Alors il y a une quinzaine, en 1994, j'avais fait un livre, certains d'entre vous le connaissent peut-être, qui s'appelait « Le sexe et l'effroi », dans lequel j'avais consacré un chapitre à la peinture romaine. Mais j'ai accepté l'invitation de Florence Monnier parce que je ne pense plus du tout j'ai beaucoup évolué. Lire précisément vous métamorphose beaucoup, et de ce fait, je suis content de pouvoir, si vous voulez bien, là, pendant une heure, faire une espèce de démonstration qui ne vaudra que ce qu'elle vaudra, mais sur une autre façon d'appréhender la peinture romaine et en marquer l'originalité incroyable et la beauté très très très. De plus en plus, je trouve cette peinture merveilleuse. Bon, on va faire un exercice romain très classique, une technique de mémoire, un ars memoriae. Vous allez pendant quelques instants, j'en ai besoin pour la démonstration, fixer un coin d'architecture ou le bout de vos souliers, ou le bout de son parapluie comme Proust le faisait, ou alors trois gouttes de sang dans la neige si vous les avez au pied de votre cheval. D'abord, on va aller, c'est indispensable, très vite, on va aller à Montignac, on va monter la petite colline dans les chênes verts, on va aller déranger l'archéologue dans sa petite maison en ciment, il va nous enfermer dans la grotte, il va refermer le sous-marin, on va avoir les pieds plongés dans une espèce de créosote, et puis nos yeux vont s'accoutumer à l'obscurité. Et on va, avec une petite loupiote, on va directement aller voir la fresque du puits. N'ayez pas peur, c'est pas pour l'interpréter, il n'en sera pas question une seconde. C'est juste pour obtenir quelque chose de vous qui est... Il n'y a pas de... Dans les architectes grecs et romains avaient besoin d'une ligne horizontale. Parfois, ils l'appelaient la ligne d'orthographe, la ligne orthographique, pour abâtir leur bâtiment, ou bien... Pour le fresquiste, c'est la ligne à 70 cm ou 80 cm à partir de laquelle il pouvait peindre. Dans la scène du puits, il n'y a pas de... Cette ligne manque, mais enfin, vous pouvez la visionner intérieurement, comme l'aurait fait un Romain, en vous basant sur le rhinocéros, sur le bison. Vous avez le petit bâton sur lequel il y a une tête de corbeau qui vous donne la verticale. Ce que je veux obtenir, c'est ça de vous, c'est que si vous prenez l'horizontale et la verticale, vous voyez que l'homme qui est représenté à tête de corbeau, l'homme n'est pas debout et il n'est pas à terre. L'action n'est pas achevée. C'est uniquement ça que je veux que vous sentiez en vous, l'action n'est pas achevée. Il tombe. On va arriver maintenant sur le sol italien, on ne va pas le quitter. On va commencer par Naples. Là, je bois à chaque. Le voyage est tellement long que je bois entre chaque. On va descendre au port parce que pour aller à Paestum, on a trop de vertige pour prendre la route. On va prendre le bateau après le magnifique château de René d'Anjou qui peignait des perdrix. Et puis, on va, vous allez passer devant Herculanum, on va passer la pointe de Sorrente, et on va s'arrêter à Amalfi pour changer de bateau, on va traverser le golfe, on arrive à Paestum. À Paestum, on rentre dans le musée archéologique, le tout petit musée archéologique, qui possède un escalier absolument immense, mais ça, on va descendre au sous-sol. À droite, vous avez un sarcophage, et sur le mur qui le surplombe, il y a cette scène du plongeur de Paestum. Alors là, nous avons, c'est très clair, parce que là, le peintre, non seulement là, le rectangle essuie la pierre, mais le peintre a lui-même peint un rectangle à l'intérieur de la pierre. Et là, donc, sur la droite, comme la scène de Lascaux, ça se lit de droite à gauche, le plongeur plonge de droite à gauche, et de même qu'à Lascaux, les animaux sont présents de droite à gauche, et l'homme tombe lui-même de droite à gauche. C'est important pour la peinture même. C'est pour ça que je donne des éléments. Ensuite, vous comprendrez qu'ils ne sont pas du tout gratuits. Donc, vous avez à droite une espèce de muraille de pierres rectangulaires. Je crois qu'il y en a trois séries, avec une pierre un petit peu plus penchée en avant, dont une espèce d'acropolis, disons, à partir duquel... de laquelle le plongeur a plongé. Et en bas, vous avez sur la gauche une tache verte qui s'enfle un peu et qui est donc la mer. Et là, simplement, ce que je veux que vous sentiez, c'est que l'action n'est pas achevée. L'homme n'est pas au-dessus de l'acropolis et il n'est pas non plus dans la mer. Son sexe, ça n'est pas érigé, il est tout perpendiculaire par rapport à la scène. Il est dans l'air, dans un suspens. Il est suspendu en l'air. D'ailleurs, c'est une presse qui n'est pas donc romaine, enfin, qui est sur le sol romain et qui a un caractère déjà d'incroyable calme placide, disons. Une scène très silencieuse et très belle. C'est une très belle peinture. Avant d'arriver vraiment à une peinture romaine, il faut encore passer par Rome et traverser l'Italie. Et là, on va dans le monde, dans l'Étrurie, on va dans le petit village de Tarquinia, on va monter au-dessus du petit musée archéologique de Tarquinia et on va arriver sur la colline ou dans les avoines, mêlés aux avoines et aux chardons, il y a plein de petits périscopes. Et on va choisir peut-être la plus belle tombe, la tombe dite des taureaux. On descend donc les 10-12 marches. Et alors là, toutes les lignes orthographiques sont là, à non plus pouvoir, c'est précisément aussi cette frise au-dessus des taureaux érotiques, des hommes érotiques. Et on va uniquement regarder la fresque principale, magnifique. Donc vous vous en souvenez, c'est bientôt fini, mais l'effort de visualisation intérieure que je vous demande. Donc un immense cheval qui va de la droite vers la gauche, immense cheval blanc, magnifique, un petit couros, un enfant au-dessus qui tient les rênes de la main droite et de la main gauche une très longue lance. Il se dirige vers un puits là aussi très néolithique, en pierre rectangulaire, un très beau puits. Et derrière ce puits est caché un homme en position de... un genou plié, en position de bondir. Alors là, enfin, on peut interpréter la scène, puisqu'on la connaît, c'est une scène homérique, du monde homérique. Et donc, c'est Troïlos qui quitte les portes C de Troie. C'est le soir, parce qu'entre les jambes du cheval, il y a un soleil à demi couché avec des flammes rouges. C'est donc le crépuscule. Ce jeune héros, cet enfant, passionné de chevaux, va faire boire au puits son cheval. Et derrière le puits, c'est Achille, Achilleus, qui va se précipiter pour le tuer. On pourrait appeler cette fresque, parce que vous allez comprendre mon problème, et que je pense que les noms, les titres des fresques romaines ne conviennent pas. Donc ça peut vous intéresser vraiment pour si par chance un jour vous pouviez trouver, en soulevant un morceau de terre, une fresque romaine de nouveau. Donc on pourrait appeler cette scène, vraisemblablement inspirée du monde grec, en grec on pourrait dire Achilleus aposkeon, on pourrait dire Achille tendant une embuscade, surveillant, guettant sa proie. On va se poser quand même la question pourquoi le héros de la vaillance et du courage veut-il tuer comme ça un enfant en s'embusquant derrière un puits? Alors là, je vais vous demander une chose à laquelle je crois beaucoup. Je ne peux pas. Je vous demande de me l'accorder pendant une heure. C'est que je pense que tout peintre peint à partir de sa langue. Et de ce fait, c'est pour ça qu'on peut parler peinture grecque, peinture romaine, peinture sanscrite, oui, égyptienne. Il en va pour moi de un peu comme Freud par rapport aux rêves. Les images des rêves, non seulement doivent être lues dans leur langue, parce que c'est la langue qui les transmet, et la langue, et le patient, quand il transmet son rêve, transmet aussi son symptôme dans la narration de ce rêve, mais d'autre part parce que l'esprit a été construit et malmené à l'âge de l'acquisition de la langue par cette acquisition elle-même. Donc la langue et ses calembours fonctionnent immensément dans les peintures. Là, l'oracle, c'est une scène d'oracle, avait dit très simplement, c'est un calembour en effet, Troïa, Troie, serait détruite si l'enfant Troïlos, si le Kouros, était tué. L'un détruit, l'autre serait détruit. Donc ça explique l'extrême violence de la scène qui est représentée. Mais ce qu'il faut maintenant envisager, c'est que là, non plus, l'action n'est pas achevée. On voit, dans la paix du soir, une scène magnifique, dans la paix du soir, on voit un cheval, un enfant qui va à un puits, et c'est ça que l'on voit. Derrière ce cheval, on voit le cheval de Troie. Derrière ce soleil couchant, on voit Troie détruite. La peinture part de la droite et elle annonce quelque chose de faste, dextre. On contemple donc dans cette peinture, on est dans l'action d'avant. Il ne faut jamais chercher dans une peinture gréco-romaine ou romaine l'action achevée. Maintenant, je bois de nouveau parce que je voyage tellement. Bon, maintenant, je vais m'appuyer sur un vrai érudit parce que ça donnera du sérieux à mon propos. Et un merveilleux érudit que vous connaissez tous qui s'appelle Jacques Pigeot, qui n'est pas latiniste mais qui a écrit une thèse jadis. La maladie de l'âme, étude sur la relation de l'âme et du corps dans la tradition médico-philosophique antique. Et dans ce livre, je vais parler, il consacre un chapitre à la maladie, aux symptômes de Médée en tout cas. Donc on repart sur Naples. Là on va au musée archéologique. Je n'ai pas vu malheureusement la nouvelle, il paraît que c'est peut-être pas vous non plus. Il paraît qu'il y a une nouvelle mise en scène, je ne sais pas comment on dit, installation des fresques à Naples. Malheureusement, je n'ai pas vu la nouvelle. J'espère qu'on les voit mieux parce qu'avant on se tordait le cou pour admirer des chefs-d'œuvre. Là, je vais prendre. Il y a trois Médées. Elles sont toutes les trois, alors absolument. Grâce à Florence Bonnier, on a une Médée, celle d'Herculanum, sur la fiche, avec les trois Médées, on se regarde latéral, propre au monde romain si étrange. Il y en a deux qui représentent, dans une paix aussi incroyable, dans une très 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 grande quiétude, Médée qui tourne son regard vers la droite, toujours à droite, les deux enfants qui jouent aux osselets, et souvent, je crois sur une d'entre elles en tout cas, le précepteur qui se tient derrière. Alors bien sûr, le titre habituel, c'est, comment dire, Médée méditant son crime, préméditant le meurtre de ses enfants. Les enfants sont en train de jouer avec leurs osselets. La scène est... Mais je ne pense pas que l'on puisse, et ça c'est grâce à Jacques Pigeot, je ne pense pas qu'on puisse interpréter comme cela ces Médée. Et d'ailleurs, ce regard latéral, dans les trois magnifiques têtes que j'évoque, et que vous avez sans doute en mémoire, sont pas des regards de préméditation ou de colère ou de, ce sont presque des Piero della Francesca, ce sont presque des regards intérieurs. Il y a une espèce d'inclinaison de la tête et une espèce de c'est plus que de la méditation. On pourrait dire qu'elle examine ce qu'elle est en train de ressentir. Toussez comme vous, autant que vous voulez, ça me permet de boire. Alors là, c'est là où, grâce à Jackie Pigeot, on va pouvoir glisser de la peinture, des fresques grecques aux fresques romaines. Je vais vous lire quelques passages de Jackie Pigeot, qui donc oppose, il y a une Médée de Ripide, qui est un texte absolument superbe et très violent, et il y a une Médée de Sénèque, ce qui nous permettra de pouvoir savoir à quoi la fresque elle-même fait allusion. Le problème technique de Médée, qui a fasciné les tragiques et les philosophes, est très clairement formulé par Aristote dans sa Poétique. Médée, pas la Médée grecque dans ce cas, est un personnage qui sait ce qu'il fait. L'action peut se produire à l'ancienne avec des personnages qui savent et connaissent ce qu'ils font. Comme Euripide a traité sa Médée tuant ses enfants, Eidotas kai gignocontas, c'est-à-dire le sachant. Chez Euripide, la décision de tuer les enfants est donnée au vers 792, Tecna, les enfants, gar katakteno, tué. Chez Euripide, on peut voir à partir de ce moment la tragédie comme l'histoire d'un passage à l'acte. Au contraire, il nous semble que toute la tragédie de Sénèque est la longue préparation de ce passage à l'acte et de sa nécessité. Elle est une ascension vers un niveau d'être indispensable à l'accomplissement de l'acte. Ce niveau d'être est, conformément à la pensée stoïcienne, c'est-à-dire Sénèque, un état de tension, et l'acte est la ruée irrémédiable d'une énergie jusqu'alors contrainte. L'acte de Médée est, dans tous les sens du terme, une catastrophe. Ça, je ne pense pas. On va laisser Jackie Pigeot parler. Le temps de la tragédie est celui qui est nécessaire à l'accumulation d'une force. La question essentielle est celle de l'être de Médée. Comment comprendre le passage du Médéa Fiam, Médée, je deviendrai Médée, du vers 171, au Médéa Nunc Sum, comme quoi Flaubert n'a pas inventé Madame Bovary, au Médéa Nunc Sum, maintenant je suis Médée, du vers 910. Il cite, là je vais vous citer deux. Non, je vais pas, pardonnez-moi, je m'en vais parler. Un instant, parce que je n'ai pas évoqué la possibilité sur la plus grande des fresques, qu'on pourrait dire grecque, celle qui contient deux enfants, où les enfants sont les plus grands. Les enfants s'appellent en grec Mermeros et Phérès. Il y en a deux. En grec, méditer, quand on dit méditer, en plus on a le mot de Médée dans méditer, alors, qui explique peut-être cette tête si pensive de Médée. Mais le fait d'être en proie à une décision se dit mermerizo. Dans mermeros, qui va bien sûr être coupé en morceaux, dans mermerizo, c'est la même chose. Meros, c'est le morceau, c'est la part. Si vous voulez, en français, pour traduire mermerizo, on le dit souvent, je suis partagé. Je ne sais pas très bien quoi faire, je suis partagé. Ça, c'est vraiment mermerizo. Et c'est vraiment la Médée grecque. Là, on pourrait dire, lorsque l'on voit donc cette Médée tournant son regard, l'épée loin de son corps, on pourrait donner comme titre en s'appuyant sur Jackie Pigeot, à la fresque, Médéa Mermerizzo, mais en proie à cette séparation qu'elle va achever en séparant ses propres enfants. Maintenant, avec le texte de Sénèque, c'est pour ça que là, j'avais demandé à Florence Meunier de choisir cette Médée d'Herculanum. Et c'est pour ça que vous allez comprendre tout de suite, en vous citant quelques passages de Sénèque, pourquoi cette fresque-là est romaine, puisqu'elle est affectée par le texte romain de Sénèque. Elle ne sait plus, comme dans la Médée d'Euripide, elle ne sait plus ce qu'elle va faire. Médée, au vers 917, « Nescio quid ?» Je ne sais, féroce, je ne vais pas tout lire, mais je ne sais ce que mon âme sauvage a décidé à l'intérieur de moi, et ce qu'elle n'ose pas encore s'avouer à elle-même. Donc là, ce n'est pas une décision de l'acte que l'on a dans cette idée. C'est est-ce que je vais tuer ? Est-ce que je ne vais pas tuer ? C'est beaucoup plus large. Tout le possible est encore en elle. Et je poursuis cette qui vais-je tuer en plus, les deux ? Ce que je veux dire par là, vous allez voir cette je ne sais pas par quel bout faire ma démonstration, c'est pour ça que vous me voyez hésitant. Vous avez tous vu cette affiche très belle, j'espère. Vous aurez noté, la lumière ne vient pas vraiment sur une joue de Médée un peu. Elle vient un tout petit peu, elle affleure sur les seins. Mais la lumière se porte vraiment au niveau du sexe de Médée. L'épée le touche et c'était très étrange mouvement. Bon. Voilà le texte de Sénèque. Si ma main avait pu me rassasier d'un seul meurtre, je n'en aurais tenté aucun. Quand j'aurais tué les deux, donc Phérès et Myrmiros, pourtant c'est un nombre encore trop restreint pour ma douleur. Si quelque gage est caché, là encore, dans la mer, je fouillerai mes viscères avec l'épée et je l'arracherai avec le fer. Je vous donne le texte latin qui est en effet très pudique, mais enfin, in matre, si quod pignus et camtunc latet, scrutabor, ense, viscera et ferro extram. Le texte latin d'ailleurs est beaucoup plus violent. J'extirperai avec l'épée le troisième petit ou la semence de Jason qui est au fond de mon utérus. Dans la scène, je pense là que l'on peut dire que là on a une figuration, une fresque romaine, parce que là elle correspond au texte latin. Il y a trois, pas trois enfants, il y a, et c'est extraordinairement proche aussi de la façon des vengeances romaines. Sacrifier un vieil homme, c'est lancer très peu de violence sur celui que l'on voudrait toucher, mais lancer sur le père des vies, plus elles sont jeunes, plus la virulence de la vie qui les agite encore permet une vengeance infinie. Mais encore une fois, revoyez ces trois fresques magnifiques. Que voyez-vous ? Vous voyez une paix, un incroyable silence, les enfants qui jouent, une femme qui regarde à l'intérieur d'elle-même, ne sachant pas encore ce qu'elle va choisir. Premier stade de... Je peux faire juste une parenthèse aussi. Vous ne l'avez pas encore trouvée ou découverte, mais je pense qu'elle existe. C'est, si vous prenez la scène si célèbre, et la tellement romaine, en effet, de Jules César devant le Rubicon. Là encore, tout le possible est ouvert quand il le contemple, avant qu'il prenne sa décision. C'est vraiment une scène romaine qu'on va retrouver dans toutes les fresques du monde romain. Octave aurait pu rester à Athènes, l'Empire n'aurait pas... il faut tout visiter du possible qui n'est pas... Et vous avez une scène absolue. Si vous comprenez... Prenons Bonaparte devant les Autrichiens à Arcole. Les peintres de l'époque, mais vous en souvenez sans doute, mais il y a plusieurs peintures, on le voit soit à cheval, soit debout, sortant du pont sous les bombardements autrichiens. Ce sont les scènes... J'ai apporté les deux possibilités parce que c'est amusant par rapport à... Il faut que je fasse attention, j'ai une tendance à la digression. Dans Suétone, vous souvenez, vous avez le coup de dé. Vous avez un homme qui... tout le possible est en lui et c'est le jeu qui va décider de son action. Je rapporte juste le passage de Plutarque parce que nous l'avons déjà rencontré. Plutarque écrivant en grec et Suétone en latin, c'est pour bien faire sentir le 12 janvier moins 49, donc comme il arrivait sur le bord de la petite rivière côtière appelée Rubico, frontière de la province qui lui avait été confiée par le Sénat, César se tint immobile devant l'onde, semblant hésitant, réfléchissant en silence. Il avait alors l'apparence d'un homme qui, du haut d'une falaise, se lance dans un gouffre béant. C'est la scène précisément en grec que nous avions vue. Par parenthèse aussi, c'est la dernière digression que je fais. ce qu'on appelle, ce que Freud ou ce que nous appelons, ce que Boileau a traduit par traité du sublime, ce que nous appelons sublimation ou sublime. En grec, périipsous, ipsi, ça veut dire, c'est exactement là où se trouvait le plongeur de Paestum, c'est être en haut, et c'est la sensation, explique Longin dans un, c'est un livre absolument superbe, c'est cette impression d'apic vertigineux qui est cherchée dans l'art, plutôt que cette sublimation que nous croyons y rechercher, cette paix que nous croyons y rechercher. Alors, je vais faire deux parenthèses. Là, ce ne sont plus, là, ne craignez rien, ce ne sont pas des digressions qui vont m'embarquer. Quand on fait des études de philosophie, et de philosophie ancienne, il y a un mot qui est très très difficile à comprendre. Très très difficile à comprendre, qui est le mot entelecheia, entelechi. C'est un mot que Aristote emploie à plusieurs reprise, l'étudiant ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Est-ce qu'il faut voir derrière ça une pulsion, une poussée, comme dans Freud, ou bien un conatus, comme dans Spinoza, quelque chose qui cherche à être. En fait, c'est un mot, maintenant que j'ai fait c'est un mot extrêmement simple, c'est exactement ce dont je vous ai parlé. Il s'agit d'une potentialité qui n'est pas passée encore à l'acte. C'est exactement ces scènes, donc, De César devant le Rubicon ou bien de Médée, tout le possible est encore là. Le passage à l'acte ne fera, l'être sera plus étroit que le possé lui-même, que la potentialité elle-même. Dans le monde latin, quand on fait des études de latin, il y a un point qui est extrêmement difficile à comprendre, c'est le gérondif. Le gérondif, qu'est-ce que c'est que ce participe qui était un adjectif, ce passé qui dit du futur, c'est un monstre qu'on a du mal à comprendre au tout début de ses études. Et là, c'est exactement la même chose. Ce que je suis en train de vous dire, c'est le cœur précisément de cette action avant l'action, de cette visibilité avant l'action. Le gérondif, je prends un exemple. En plus, c'est un exemple, c'est une autobiographie. Consumit tempus legendo. Il consacre son temps à la lecture. Mot à mot, c'est le temps lui-même qui est devant lire. C'est ce devant-là que représente le peintre romain. Jamais l'action achevée. En d'autres termes, le coup absolument génial de ces fresques, par rapport au problème que se sont posés les peintres modernes, c'est qu'il n'y a pas de problème d'anecdote, puisque l'anecdote n'est jamais montrée. On est dans la méditation d'avant l'anecdote. Ce qui rend précisément peut-être cette impression de paix et de silence, on pourrait tout simplement dire le calme avant l'orage. Ce sont toujours des calmes avant l'orage que les fresques romaines. Alors, trois résultats modestes, j'espère, pour vous comme pour moi. Vous comprenez maintenant pourquoi l'entelechie est centrale dans la philosophie grecque, c'est l'action inachevée. Vous comprenez maintenant pourquoi le gérondif est caractéristique de l'imagination romaine, le suspense, le suspens avant l'acte. Vous commencez à comprendre maintenant pourquoi il faut sans doute modifier les titres actuels des fresques qui ont été peintes sur le sol italien. Je m'amuse, hein, moi ça me passionne ce que je vous dis, mais je ne cherche pas à vous convaincre non plus, mais c'est une possibilité quand même qui rend la contemplation de ces fresques beaucoup plus riche, je trouve. Alors là, je vais citer aussi un texte érudit. On va partir en Angleterre, dans le Kent, à la Villa d'Otford. Et ma source, là, il faut toujours citer ses sources, c'était Jackie Pigeot, là, c'est Alexandra Dardenais, La légende des origines de Rome dans la peinture romaine, dossier d'archéologie numéro 318, décembre 2006, page 34. Là, c'est précis. À ceci près que je crois qu'il faut modifier complètement l'emplacement des fragments. Ce ne sont que des fragments, malheureusement, et ce n'est pas la fresque elle-même. Je pense qu'il faut mettre l'une au-dessus de l'autre. Je dis ça parce que je ne sais pas si vous vous souvenez des fresques de ces merveilleux petits merles qui s'approchent d'une cerise dans la maison du moraliste où le texte est placé dans les mêmes caractères juste au-dessus de ces merles. Alors ce qu'on a sur le fragment, c'est Bina Manu L en capitale, donc sur fond noir, qui commence donc peut-être, bien, sans doute même, l'intitulé au-dessus de la fresque, sur laquelle, donc, en plus, vous n'avez que trois, un bras et deux épieux, je crois. Peu importe, parce qu'on peut retrouver le vers de Virgile. Bina manu, lato, crispans, astilia, ferro. C'est le début d'Énéide. C'est le vers 314. C'est donc l'arrivée, c'est la tempête, le naufrage. Il fait nuit, ils ne savent pas où ils ont abordé. Acates dans le texte, on dit souvent Acates en français, fait du feu. Les Troyens rescapés mangent un peu, le soleil se lève. Énée et Acates décident de s'avancer dans la forêt inconnue. Acates tenant, agitant, balançant, brandissant, crispance, dans sa main, deux lances au large fer, Bina, Manu, crispance, Astylia, ferro. Aussitôt, vers suivant, Vénus, déguisée en chasseresse, s'avance vers son fils auguralement. Donc, on pourrait peut-être, puisque j'ai lui donné momentanément comme titre, Acates Crispans. Ah oui, alors là, la peinture romaine, je vais continuer de lire mon texte parce que j'avais oublié ça. Pardonnez-moi. La peinture romaine sort du texte latin selon une modalité très particulière en préfigurant la scène qu'elle lit, mais qu'elle ne montre pas. Donc, ça, nous l'avons vu. Comme la mantique romaine, elle montre le signe qu'il inaugure. Je vais vous rappeler, pour les latinistes certains, qu'ils ferment leurs oreilles, encore que. Mais pour les autres, je m'en vais dire ce que veut dire les mots latins. Qu'est-ce que contempler en latin? À Rome, Jupiter, qui n'est pas Zeus, comme vous le savez, Jupiter est quodcumque vides. Jupiter est le dieu de tout ce qu'on voit dans le ciel, l'air, l'espace. Les augures sont les prêtres au nombre de 3 sous la royauté, au nombre de 9 sous la République, au nombre de 16 sous l'Empire. Ils tirent les auspices. Auspicia se décompose en aves et spicio. Mot à mot, aves, oiseau, spicio, regardez. Oiseau, regardez. Ces visions des oiseaux en train de voler se disent en latin inauguration. In, augure, actionnaire. L'augure, à l'aide de son bâton sacré, litus, découpe dans le ciel un rectangle. Ce rectangle, il est appelé en latin « templum », dans lequel il examine le vol, le chant, l'allure, la direction des oiseaux et des orages, mouvement, tonnerre, éclair. Le templum définit l'espace quadrangulaire soumis à la contemplation. Donc, contemplation est un terme technique à partir de l'intérieur des rectangles. Si le présage se produit à gauche du rectangle, sinistère, il est sinistre, c'est-à-dire maléficient. Si le présage se produit à droite du rectangle, là c'est très maléficient aussi. Si le présage se produit à droite du rectangle, dexter, il est plein de dextérité, il est bénéficient. Inutile de vous dire qu'il en va de même dans les peintures. Par plaisir, je regarde l'heure, comment ça va. Maintenant on va faire, par plaisir, on va faire, n'ayez pas peur, on va faire deux travaux pratiques. On va essayer de modifier deux titres traditionnels pour essayer de prouver le bien fondé de ce que j'avance. Maison de Syricus à Pompéi. Alors le titre qui est... Je vais vous la décrire, la fresque. Mais le titre, c'est « Aîné soigné par le médecin Iapix ». Alors, vous avez gauche à droite, droite à gauche, là aussi. Vous avez au centre... je m'approche du micro, je ne vais pas me lever et faire aîné devant vous, j'en serais bien incapable. Mais fonder Rome est une action qui n'est plus possible. Donc il regarde de droite à gauche avec un air extraordinairement tendu. Alors si on part de la droite, donc droite en haut, vous voyez des épieux qui se lèvent, des lances qui se lèvent et des officiers. En bas à gauche, à droite, en bas, je veux dire, vous avez le petit Ascagne qui pleure et son père pose la bras et l'aîné pose son bras sur son épaule. Vous poursuivez et vous avez à gauche, en bas, Iapix qui tire un morceau d'épieu ou de fer de la cuisse d'aîné et au-dessus, vous avez Vénus qui vole un peu dans les airs. Voilà la scène. Cherchons le texte maintenant. Et dans ces cas-là, comme pour Crispans, comme pour cherchons, si possible, un gérondif ou un participe présent ou un participe adjectif. On tombe sur un participe frémins. C'est le vers 398. Stabat est né donc Stabat Akerba Frémins Ingentem Nixus Inastam. Est né debout, frémissant d'une âpre impatience de retourner aussitôt au combat dans le dessin de Pythionus. Là, si on l'avait mis si le fresquiste l'avait mis sur la fresque, c'est sans doute une phrase de ce type qu'il aurait mise. Il y a bien dans le vers de Virgile cette action d'avant qui emporte la peinture romaine vers une action qu'elle n'achève pas, vers une vision qu'elle ne montre pas. Je rappelle à quel instant d'histoire on se trouve. Pour l'instant, sur le champ de bataille, Turnus est vainqueur. Aîné s'est retiré du combat, claudiquant, grièvement blessé. Donc la situation est très mauvaise. De droite à gauche, bon, ça je vous l'ai lu. Aîné se tenait debout, frémissant, donc frémince, d'une âpre impatience, appuyé sur une énorme lance, entouré d'une foule de jeunes gens qui s'affligeaient, mais lui, insensible aux larmes. Aîné, avide de combat, avait déjà passé ses deux cuissards d'or, il maudit tout ce qui le retarde. Oui, là, c'est pour vous expliquer qu'en plus donc, de ce titre qu'il faudrait mettre sur une fresque, il faudrait choisir aussi, ça, c'est la même chose dans le monde grec, ce qu'on appelle en français la morale, mais ce qu'on peut appeler l'instant éthique. Il faut toujours trouver derrière la fresque un instant de plus que d'oracle et d'oracle et d'un enseignement éthique de la fresque. Lorsque son bouclier est ajusté à son flanc et sa cuirasse à son dos, il presse Ascagne dans ses bras et sous son casque effleure d'un baiser le front de son fils. « Mon enfant, apprends de moi la vertu et l'effort qui mérite la vraie gloire. D'autres t'enseigneront le bonheur. Aujourd'hui, mon bras te défendra dans les combats et te conduira où t'attendent des grandes récompenses. Fais en sorte, lorsque l'âge t'aura mûri, de te souvenir. Garde les exemples de ta race et n'oublie pas, pour soutenir ton courage, que tu es le fils d'aîné. » Ce qui est montré dans la fresque n'est certainement pas le fait de soigner, c'est le fait que Vénus vient apporter, alors que le combat est dans une très mauvaise passe, à aîné donc un contrepoison dans une fiole, et les dieux deviennent de son côté, et de l'autre côté, à un enfant qui pleure, le père enseigne la virtus, c'est-à-dire la virtus, c'est le fait d'être vie, hein, c'est le fait d'être homme. Et le fait d'être homme à Rome, dans les traités de chasse, les débés nationaux, c'est très clair, c'est devenir sanglier, c'est-à-dire affronter, c'est de ne pas fuir et d'affronter. Et c'est ce que va faire précisément Aîné, il apporte donc la virtus à Ascagne. Vergilius Vaticanus, c'est la mort de Didon. C'est intitulé comme ça, mais je pense que nous ne pouvons pas garder cet intitulé. S'il faut le garder dans Purcell, comme ça, il faut le garder dans... Mais pas sur la peinture. Alors là, je crois que c'est la seule peinture dont je vous parle qui part de la gauche. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je pense qu'elle part de la gauche parce que la petite skénée en bas, c'est comme une sorte d'amphithéâtre sur lequel est représenté le bûcher de Didon. Et Didon se tient sur le bûcher, on ne voit que son torse et une épée. Je comprends qu'on ait songé qu'elle allait se tuer avec cette épée et qu'il s'agissait de la mort de Didon, mais ce n'est pas du tout, cette scène. En bas, donc, à gauche, Sinistère, vous avez une skénelle. Dans l'Antiquité, la scène, c'est le lieu, dans les scènes primitives aussi en psychanalyse. Dans l'Antiquité, la scène n'est pas la scène, mais c'est le petit tabernacle, la petite tente, la petite cabane dans laquelle on va chercher son masque, on va chercher son déguisement. On change de nature, on va chercher le héros ou le dieu qu'on va interpréter. Si on part donc de cette scène, et vous allez comprendre pourquoi je parle d'un... Alors, la reine de Carthage, le texte présente une ruse. Elle prétend, comment dire, qu'il faut à tout prix brûler tous les vêtements, l'épée par laquelle Aîné a perdu la guerre de Troie. C'est donc, c'était pas du tout une épée victorieuse, qui lui a donné en échange une épée victorieuse, qu'elle lui a donnée, elle. Tous les vêtements, le lit où il s'aimait, tous les reliefs, le portrait d'Aîné, tout doit être brûlé. En fait, c'est un bûcher, c'est très compliqué parce qu'en fait, elle va se tuer sur le bûcher, mais sa sœur, comme la nourrice, ne peuvent pas le pressentir. C'est là où on a quand même le plaisir d'avoir des familles de lettrés.
On touche comme ça ce que sa mère, son grand-père ont annoté. Je vous souhaite d'en avoir autant chez vous. Alors voilà la scène, et on va chercher précisément un participe, quelque chose qui puisse nous en donner le sens. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, cette scène absolument magnifique dans Virgile est très complexe parce qu'elle change d'avis à plusieurs reprises, dis donc. C'est une... Peu importe, je vous lis ça, j'ai le temps encore, je vous le lis. Aussitôt, frémissante, farouche de sa terrible résolution, Didon, des lueurs sanglantes dans les yeux, les joues tremblantes, marbrées, pâles de sa mort prochaine, se précipite à l'intérieur de son palais, gravit d'un élan désespéré les hauts degrés du bûcher et tire l'épée du Dardanien. C'est donc ça qu'il faudrait prendre. Là, c'est un ensemque recludit Dardanium. Elle a regardé les vêtements d'Ilion et la couche si familière. Elle a donné un instant aux larmes et aux rêves. Puis elle s'est jetée sur le lit et elle prononce ses dernières paroles. « Vêtements qui me furent chers tant que les destins et la divinité le permirent, recevez mon âme. Et libérez-moi de mes souffrances. J'ai fini de vivre. J'ai accompli la route que m'avait tracée la fortune. C'est une grande ombre qui maintenant va descendre sous la terre. » Bon, là, je vais revenir là-dessus parce que ce mot ombre, c'est bien sûr imago, et le traduire par ombre, c'est vrai, mais c'est un peu plus gênant parce que dans la mesure où elle veut aussi brûler le portrait d'aîné, qui lui est effigies, donc il y a là il aurait fallu traduire par image. J'ai fondé une ville magnifique, j'ai vu mes remparts, j'ai vengé mon mari et puni le crime de mon frère. Heureuse, hélas, trop heureuse, si seulement les vaisseaux dardaniens, troyens, pour ceux qui ne comprennent pas, bien sûr, n'avaient jamais touché nos rivages. Elle dit, et collant ses lèvres sur le lit, « Je mourrai sans vengeance, mais mourons. Il m'est doux d'aller ainsi, oui, même ainsi, chez les ombres. » Alors là, c'est Umbra, là, ça tombe bien. « Que de la haute mer, le cruel dardanien repaisse ses yeux des flammes de mon bûcher et qu'il emporte avec lui le mauvais présage de ma mort. » Là, il y a beaucoup à commenter. Je ne sais plus par quel bout je vais le prendre. J'ai juste parlé de Ephigies. Ephigies et Imago. Ça n'a rien à voir, bien sûr. Ça n'a strictement rien à voir, mais c'est une petite scène d'un film, comment dire, qui se passe en Nouvelle-Guinée que je vais évoquer. Parce que, et c'est en mettant le silence, parce que le commentaire était inexact. Voyons, comme les fresques elles-mêmes, voyons la scène. C'est un chef de tribu qui meurt. On porte de sa tente son effigie en bois, où il y a un visage représenté, entouré de fruits, de légumes. On entoure dans le cimetière le menhir, la pierre informe, et on l'entoure de tous ses fruits, de tous ses légumes, et on brûle l'effigie. Donc là, nous avons une combustion d'effigie aussi. Bien sûr, ça n'a rien à voir avec la Nouvelle-Guinée, que Virgile me pardonne. Mais heureusement, il ne la connaissait pas particulièrement. Alors voilà, vous vous souvenez, la scène de Tarquinia, où vous aviez on a derrière cette scène extraordinairement calme, l'incendie de Troie et le cheval de Troie. Et là, c'est un peu la même chose. Mais il faut bien comprendre alors là aussi de quoi il s'agit. En brandissant l'épée troyenne d'Aîné, et si on le lit précisément de gauche à droite, c'est pas la guerre de Troie là, ce sont les guerres puniques. C'est Carthage qui lance contre Rome, avant que Rome soit fondée, qui lance contre Rome la destruction de Rome. Donc c'est pour ça que je pense qu'on peut la lire de la gauche. Et c'est ce qui donne dans la calme beauté de cette scène, pas du tout, comment dire. Avouez qu'il y a une grande différence entre dire la mort de Didon et de dire, Didon lançant les guerres puniques contre la ville qu'a fondée Aîné, avec cette épée maléficiente. Voilà, c'est ça. Et puis dans le vers qui suit, c'est juste l'instant, comme le dit Virgile, elle donne un temps aux larmes, morata, moratoire, comme on dit en français. Enfin, moratoire, c'est ça la peinture romaine. Elle donne un temps aux larmes et aux souvenirs. Lacrimis et mente morata. Elle devient aînée, elle se tue comme si elle était aînée, avec l'épée d'aînée sur le lit de leurs amours, dans l'odeur même des vêtements d'aînée. Là, il faudrait prendre un terme sanscrit. C'est exactement un sati dans ce cas. C'est une mort, comment dire, fusionnelle sur ce bûcher funéraire. Elle fait comme si elle était veuve. Donc, le titre, je donnerai Dido ensem recludens d'Ardanium. Maintenant, j'en arrive à l'intitulé de mon sur le moment extrême. Pourquoi j'ai choisi cette Vous savez, comme moi, je veux dire, dans le mouvement d'extériorisation, exterus, le comparatif extérieur, superlatif, extremus. Bon. Ça me permet de saluer mon maître, il y a plus de 40 ans, Emmanuel Lévinas, qui précisément n'avait une pensée que de l'extériorité. Extremus est le superlatif de exterus, c'est-à-dire extrême signifie la pointe extrême, l'instant ultime de l'extériorisation. La peinture romaine ne s'intéresse pas à l'anecdote, ne montre pas la scène visible, extériorisée. Le peintre peint le moment où l'action est sur le point de sortir. Le moment extremum, dans le gué prédatif, équivaut à l'instant le plus immobile et le plus silencieux juste avant l'orage, par exemple calme avant l'orage dans le ciel. C'est le dernier moment, extremum momentum, juste avant l'instant où la scène va s'extérioriser dans le réel. Deux questions ultimes. 7h30, il faudrait peut-être que j'accélère. Non, je vais le lire parce que ça vaut peut-être quand même, il faut répondre à ces questions. Première question, pourquoi sommes-nous les peintres aujourd'hui sous le régime de l'action achevée, alors que la peinture antique ne peignait le visible qu'avant la scène visible? Là, je vais prendre un exemple, je vais le prouver d'abord. Dans les fresques dont je parlais tout à l'heure, où vous aviez, comment dire, une ou deux cerises, un pédoncule, un petit merle qui s'approche. Cette scène au gérondif, qu'est-ce qui est même le maximum, si on peut dire, ou l'extrémum du gérondif? C'est l'apéritif. Et d'ailleurs, à cette heure-ci, non, c'était pas une... Mais c'est le fait de se tenir devant, comment dire, la potentialité. On prend une carte devant la potentialité totale de ce que l'on peut dévorer pour ne choisir, hélas, pas l'ensemble. Mais cette dévoration à l'avant, c'est l'instant d'avant, le merle pépiant de joie, devant manger, devant la cerise. C'est le moment extrême où le merlot s'apprête à dévorer la cerise juteuse toute rouge, faisant venir le printemps par contagion sur la paroi de mur. Ça, c'est une fresque romaine. Vous prenez exactement la même scène. Vous sautez 15 siècles et vous demandez à Lubin Bogin, par exemple, de peindre cette scène, exactement le même merle, exactement la même cerise, exactement la même pointe de table. C'est devenu une nature morte. C'est devenu un memento mortis. Adieu l'été, adieu les cerises, adieu les couleurs, adieu le chant des merles, tout est dans la mort. Alors pourquoi il en a été ainsi? Là, je vais vous demander un dernier voyage. Mais le plus fabuleux, parce que après la baie de Naples, c'est Istanbul. D'ailleurs, j'ai deux compagnons là-bas qui... C'est d'ailleurs assez... N'ayez pas peur, c'est le dernier voyage et c'est fini ensuite. Vous partez du port, de la rive européenne, vous passez devant l'île, vous êtes dans les îles des Princes, vous passez devant l'île des Juifs, vous arrivez dans l'île des Grecs. C'est très haut, il faut monter, vous prenez une petite charrette tirée par un âne, etc. Vous montez jusqu'au monastère. Au monastère, c'est très triste parce qu'il n'y a plus un moine, il n'y a plus un pope, vous trouvez un chantre quand même qui vous ouvre tous les trésors qui sont accumulés dans ces lieux magnifiques. Vous allez jusqu'à l'église, splendide, plein d'icônes magnifiques, et dans la chapelle de gauche, près de l'autel, vous avez une magnifique icône sur un bois plein de 10 cm d'épaisseur, qui représente bien sûr une Vierge qui est parfaitement grecque, qui a la beauté de toutes les femmes rassemblées en elle, idéale. Eidos, et l'enfant naissant dans son giron, comme un petit Dionysos, le plus beau et le plus merveilleux des enfants, rassemblant lui aussi toutes les qualités d'un enfant. On est vraiment dans la peinture grecque eidétique. C'est pas un kouros, mais c'est presque un kouros. De l'autre côté de cette planche, vous avez, c'est vraiment magnifique, cet ensemble, cet unique bois. Vous avez une crucifixion splendide du XVe siècle. Elle a en grand carton une magnifique scène de mort, une tête de mort couverte de sang, de détresse, de douleur, une magnifique peinture de la Renaissance. C'est une imago, c'est une tête de mort. C'est le monde romain où le statut est totalement différent. Il n'y a rien de plus différent entre le visage, l'eidos dans Platon et une imago romaine qui est une tête soit surmodelée, soit comme d'ailleurs du 3e, du 1er siècle au 3e siècle. C'est cette ruse de peintre, cette ruse picturale qui faisait que vous faisiez la tête du mort à la peinture en cire et que vous la faisiez luire au fer et que en détrempe, en peinture beaucoup plus terne, vous faisiez le reste du bois. Je vais aller très vite là pour pouvoir clore, mais c'est 15 siècles, c'est très très lent. Si vous voulez, pendant, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les crucifixions les plus anciennes, vous avez au-dessus, bien sûr, du mauvais larron, un effroyable démon qui sort de sa bouche, mais au-dessus de Jésus, vous avez un petit ange merveilleux qui va dans la main, qui est dans la main de Dieu, ou bien qui va dans l'oméga, ou qui va. En fait, la crucifixion, pendant longtemps, a été la scène d'avant la résurrection. Exactement comme une fresque romaine pouvait l'être. Il y a eu un moment, et ce moment il est facile à parce que c'est la phrase de Hegel magnifique, le mot de Luther, Dieu est mort. Il y a eu un moment à la contre-réforme et à la réforme, et ce sont des limitations de la vie de Jésus-Christ, c'est sa mort qui est imitée. Les exercicias d'Ignace de Loyola, c'est la mort, c'est la passion elle-même qui, instant par instant, est imitée. C'est la même chose chez Bérulle ou chez... Vous avez eu, comment dire, soudain, la représentation de la mort, l'achève, ce qui était, comment dire, l'instant d'avant est devenu l'instant d'après, à cause de cette religion particulière, de la façon dont de façon extraordinaire, Gaucher d'ailleurs a de très très belles méditations là-dessus. Extraordinaire, ce qui était une religion de résurrection, une religion grecque, si on peut dire, là, une opposition totale. L'Église romaine en avait fait une religion du Dieu mort et de la souffrance et de la compassion au Dieu mort. Écoutez, voilà, il est 8h20, j'aurais pas triché avec le temps. Je voudrais vous remercier parce que le silence que vous aviez, que vous avez en m'écoutant, pour quelqu'un qui aime comme moi, il y avait une densité studieuse qui me fait plaisir et je vous en remercie.